Je vais un peu faire le point sur le traitement pharmacologique non inhalé dans la BPCO. Donc, je passe directement plusieurs slides qui mettent le point sur le problème et que vous avez vu plusieurs fois ce jour-là. Donc, les patients qui ont des exacerbations fréquentes sont les patients qui ont une plus haute mortalité et ils doivent être bien diagnostiqués pour pouvoir éviter une progression rapide de leur maladie, une progression de leur inflammation et des hospitalisations fréquentes. De même, les exacerbations doivent être diagnostiquées et traité le plus précocement possible. Et comme vous voyez sur ce slide, plus on a des exacerbations, plus la mortalité est plus élevée. Donc on a 4 fois plus de risques de mortalité chez les gens qui sont exacerbateurs par rapport à ceux qui ne sont pas exacerbateurs. Vous avez hâte que je passe cette diapositive parce que vous l'avez retenu. Donc, mais c'est pour dire que évaluer nos patients, les classer, ça va aboutir à voir le traitement. Le traitement inhalé est le traitement de base de ces patients, mais comme vous voyez sur cette diapositive, il y a des traitements qui sont aussi en comprimé, comme la théophylline, qui peut être utilisée à n'importe quel stade de la maladie. Il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase E4, il y a les mucolytiques, la carboxystéine. Il y a aussi d'autres médicaments tels que les méthylxanthines, les corticoïdes systémiques et les macrolides qu'on va voir rapidement. Je commence donc à parler d'un premier traitement qui n'est pas inhalé, c'est le traitement du tabac. Donc il faut arrêter le tabagisme. Il y a beaucoup de médicaments qu'on peut utiliser pour l'arrêt du tabac. Et comme vous avez vu durant ces 2 jours, l'arrêt du tabac fait une partie très importante du traitement des BPCO et de toutes les maladies respiratoires et des complications pulmonaires post-op. Vous avez le traitement substitutif nicotinique et d'autres traitements qui doivent être utilisés. Qu'en est-il des corticoïdes systémiques comme traitement de base et de fond dans le traitement des BPCO stables? Les corticoïdes ne sont pas indiqués comme traitement prolongé des BPCO stables, sauf dans des situations très particulières. On les utilisait pendant 2 semaines pour voir les gens qui peuvent répondre, qui sont répondeurs aux corticoïdes et chez qui on était encouragé à mettre des corticoïdes inhalés, mais pas plus que ça. Donc, ils ne sont pas recommandés comme traitement de fond dans les BPCO. Ils doivent être même évités parce qu'ils peuvent entretenir et potentialiser des effets indésirables, les manifestations systémiques des BPCO comme le déconditionnement musculaire et l'ostéoporose. Mais, toujours, on reparle du syndrome d'overlap syndrome, donc asthme associé à la BPCO. Et si ce sont des malades qui sont sous traitement maximal inhalé, un traitement de fond bien entretenu avec tout ce qu'il y a comme traitement paramédical, de réhabilitation et tout ça, on peut les garder sous une petite dose de corticoïdes qui ne doit pas dépasser les 5 à 10 mg. Ça, c'est pour les corticoïdes systémiques. Le traitement que vous jugez le plus important dans les traitements non inhalés de la BPCO, c'est seulement le nouveau traitement, le roflumilast, qui est le chef de file d'une lignée de traitements qui va, je pense, être développé et qui travaille sur l'inflammation dans la BPCO, cette inflammation qu'on est en train de contrôler avec tous les traitements qu'on est en train d'utiliser et dans tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui dans le traitement de la BPCO. Et donc, c'est un inhibiteur sélectif et puissant d'une enzyme qui est la phosphodiesterase 4. Cette enzyme qui existe dans les différentes cellules qui ont une responsabilité dans la médiation de l'inflammation dans la BPCO, l'inhibition de cette enzyme entraîne une inhibition de l'inflammation en évitant la formation de l'AMP. Et donc, comme vous voyez là, toutes les cellules qui sont impliquées dans l'inflammation dans la BPCO contiennent cette enzyme qui va être inhibée par la par cette molécule qui est le roflumilase. Et donc en l'inhibant, on va éviter et l'inflammation systémique et donc avoir une action sur les manifestations systémiques de la maladie et l'inflammation au niveau du poumon. Et ceci a été prouvé dans plusieurs études, et donc dans cette étude-là, qui a été publiée en Thorax en 2007, nous voyons que les différents marqueurs inflammatoires sont, excusez-moi, vont diminuer chez les malades qui sont sous roflumilase par rapport aux malades qui sont en train de prendre un placebo. Donc, il y a d'autres études aussi qui ont étudié la réduction des exacerbations avec le roflumilase. Et donc là, vous voyez plusieurs études, 5 études. La première qui a montré la diminution des exacerbations de 26% chez des BPCO avec statistiquement significatif chez les BPCO bronchoréliques. C'est un médicament qui est surtout indiqué chez les BPCO bronchoréliques. La deuxième étude qui a montré une réduction de 30% chez des malades qui étaient sous corticoïdes inhalés bronchoréliques et 20% quand le roflumilase a été associé au LABA, et 22% dans une étude où ils ont étudié des BPCO qui ont plus que 2 exacerbations, et 45% chez des gens qui avaient aussi une qualité de vie qui n'était pas bonne, avec un MHC plus que 2 et qui avaient un LAMA dans le traitement. De même, ces études ont montré que le roflumilase réduit les hospitalisations des malades et permet de stabiliser ces exacerbateurs, de les rendre non exacerbateurs, donc de point de vue état d'exacerbation, et donc ils préviennent aussi qu'ils développent d'autres exacerbations. Donc c'est un médicament anti-inflammatoire qui est assez tentant, donc qui permet de prévenir les exacerbations et peut-être avoir un contrôle de l'inflammation chez nos BPCO. C'est un médicament qui a des effets indésirables, desquels il faudra parler, les plus importants étant la diarrhée, je pense que vous l'avez tous expérimenté dans votre pratique, les troubles digestifs, donc douleurs abdominales, nausées, et aussi la céphalée. Ces effets indésirables sont tolérés par les patients le plus souvent et disparaissent après quelques semaines de traitement, mais il faut toujours monitoriser ces patients pour des troubles neuropsychiatriques et les modifications de poids. Donc s'il y a un amaigrissement très important, il faudra à ce moment-là essayer d'arrêter le traitement. Donc là, vous voyez que les effets indésirables sur cette étude disparaissent si on continue le traitement avec le traitement et peuvent complètement être résolus après quelques semaines de traitement. Pour la diarrhée, elle est assez constante parce que c'est un mécanisme physiologique. Là, vu qu'il y a des enzymes, l'enzyme phosphodiesterase E4 aussi dans la paroi, dans la lumière gastrique, et donc on va avoir une diarrhée hyperosmolaire, osmotique, parfois que les patients ne supportent pas. Donc, mais comme j'ai dit, ça peut disparaître avec la longueur du traitement. Le poids continue à diminuer jusqu'à 6 mois après le traitement, et donc il faudra faire attention chez des malades cachectiques. Donc, les recommandations pour l'utilisation de roflumilase, c'est il améliore le VMS chez des malades qui sont sous combined therapy, sous un traitement combiné salmeterol-tiotropium. Il diminue les exacerbations modérées à sévères, donc même chez les gens qui sont traités par corticoïdes et qui sont bronchoréliques. Et il est indiqué dans les BPCO modérés et sévères à très sévères, et il est évidence à de point de vue GOLD. Il a un effet aussi sur la fonction pulmonaire quand il est associé à un bronchodilatateur de longue durée d'action, et il ne doit pas être utilisé seul, il doit au moins être utilisé avec un bronchodilatateur de longue durée d'action. Ça c'était pour le roflumilase. Qu'en est-il des macrolides? Et en revoyant la littérature, il y a des articles sur les macrolides même qui remontent jusqu'à plus que 10 ans. Et donc, ils ont été étudiés dans les BPCO. Et récemment, il y a plusieurs études qui ont étudié ces macrolides sur une période très longue, donc qui va jusqu'à 1 an de traitement chez des BPCO stables, qui sont sous traitement maximal par ailleurs et qui sont toujours symptomatiques. Ils ont trouvé dans cette étude, donc dans deux études qui ont été publiées dans Thorax en 2008 et dans l'American Review, où l'utilisation de l'azithromycine pendant un an, 250 mg par jour, diminue la fréquence des exacerbations, améliore la qualité de vie, mais il y avait un problème de perte de l'audition chez une petite partie des gens qui l'ont utilisé. Dans cette autre étude du New England Journal of Medicine en 2011, où aussi il y a eu une utilisation prolongée pendant un an de l'azithromycine, ils ont trouvé aussi qu'il y a une réduction des exacerbations, et la première exacerbation a été retardée, retardée de 266 jours par rapport aux gens qui étaient sous placebo, où la moyenne des exacerbations elle était à 174 jours. Mais il y a des précautions et il y a des problèmes de sûreté dans l'utilisation des macrolides. Il y a les effets gastro-intestinaux, la cardiotoxicité avec la prolongation du QT à laquelle il faut faire attention. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, l'autotoxicité dont j'ai parlé, et sûrement c'est des antibiotiques et ils peuvent faire émerger une résistance aux antibiotiques. Donc, par rapport aux recommandations actuellement, l'utilisation de façon chronique des macrolides dans le traitement des BPCO stables n'est pas recommandée à cause de cette balance non favorable entre le bénéfice et les effets indésirables. Mais une autre étude qui a été récemment publiée dans le New England en 2012, il a proposé des critères de sélection des patients qui peuvent être candidats à la prophylaxie avec l'azithromycine. Donc, histoire de plus que deux exacerbations, ils sont bien sous les autres traitements, ils ont moins que 100 par minute de pouls, ils ont un QT qui n'est pas prolongé, ils ont un bilan hépatique qui est normal, ils ne sont pas sous des médicaments qui peuvent prolonger le QT et ils ont un audiogramme qui est normal, pas d'allergie aux macrolides, ils n'ont pas de mycobactéries dans la culture des crachats et ils n'ont pas un risque haut de maladie cardiovasculaire de base. Conclusion, donc comme j'avais dit, il y a le problème de résistance. Il ne faut pas utiliser les antibiotiques sauf pour traiter les infections, donc ils ne sont pas indiqués, donc c'est évidence B. La théophylline, comme vous l'avez vu, c'est une alternative de traitement à tous les stades des BPCO. C'est un médicament qui n'est pas cher, mais c'est un médicament qui a beaucoup de toxicité, et la marge de toxicité entre la dose thérapeutique et la dose toxique est très basse. C'est pourquoi quand on le donne avec précaution chez nos malades. Mais quand même, je pense que tous nous utilisons toujours la théophylline, et qui a démontré son effet bronchodilatateur et son effet comme un traitement de troisième ligne après les autres traitements dans le traitement de la BPCO stable. Les mucolytiques. Donc les mucolytiques, mucokinétiques, mucorégulateurs, on connaît beaucoup de mucolytiques. Je vais seulement me retarder sur les N-acétylcystéines qui ont un effet antioxydant et qui peuvent avoir un rôle dans le traitement des patients qui ont des exacerbations récidivantes. C'est une évidence B. Mais il y a eu une revue Cochrane qui a montré peu de bénéfices sur la qualité de vie des mucolytiques. Je pense que ça doit être laissé à la décision de chacun et on a besoin d'études beaucoup plus poussées pour pouvoir décider de l'utilité de ce genre de médicaments. Ils sont toujours indiqués chez les gens qui ont des crachats très épais et donc ils peuvent améliorer subjectivement les symptômes de nos malades. Il y a d'autres traitements dont on doit faire une petite revue. Sûrement, et vous êtes d'accord que l'alpha-antitrypsine n'a pas de place dans le traitement des BPCO stables, sauf si on a le problème d'emphysème avec déficience en alpha-antitrypsine. Les antitussifs ne sont pas recommandés. Et comme on avait vu hier, les vasodilatateurs, donc dans le traitement de l'hypertension secondaire à la BPCO, ne sont pas indiqués. Les narcotiques, hier on avait vu dans la séance de soins palliatifs qu'ils ont une place dans le traitement de la dyspnée sévère, des BPCO sévères, mais il faut les utiliser vraiment avec précaution et tout en maintenant une dose qui est vraiment très faible pour ne pas précipiter nos malades dans l'insuffisance respiratoire. L'infliximab non recommandé, il peut provoquer même des effets qui sont très graves, comme la pneumonie et les problèmes malins. Et il y a eu une étude récemment, aussi dans le New England, qui parle de certains médicaments à base d'herbes et qui ne sont pas sûrement jusque-là recommandés. Les vaccins sont recommandés, donc ils réduisent le vaccin de la grippe, ils réduisent les maladies et la mortalité chez les BPCO, c'est une évidence là. Et le vaccin pneumococcique qui est indiqué chez les patients qui ont plus que 65 ans avec un VMS de moins 40%, il permet de diminuer l'incidence des pneumonies communautaires. Il y a aussi comme traitement non inhalé pharmacologique le traitement des comorbidités. Donc il faut évaluer nos patients pour les comorbidités qui existent, donc les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, les infections respiratoires, l'anxiété, dépression, le diabète et le cancer pulmonaire. Ces conditions comorbides peuvent influencer la mortalité et l'hospitalisation de nos patients et doivent être traités de façon approprié. Il ne faut jamais oublier de traiter ces comorbidités. Donc, en conclusion, un petit diagramme, bien évaluer notre BPCO, évaluer sa sévérité, le nombre d'exacerbations, sa symptomatologie, les comorbidités, traiter les comorbidités, traiter les exacerbations et mettre un traitement pharmacologique standard, inhalé, combiné, comme on avait vu, et puis ajouter les autres traitements avec le traitement paramédical qui sont la réhabilitation, la nutrition, et donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a vu beaucoup d'études, mais ce n'est pas toutes les questions qu'on se pose qui vont avoir une réponse par des évidences, donc de la médecine basée sur les évidences. Il y a encore beaucoup de choses à élucider, à clarifier dans la prise en charge de nos BPCO. Notre flair clinique a une place à jouer dans ça. Et encore, il y a beaucoup de choses à résoudre dans la séquence de ces traitements qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'il faut mettre avant quoi et comment associer ces traitements. Je vous remercie.